La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie. Merci de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle du gouvernement de la République démocratique du Congo dans notre débat du jour. En tout cas, ce qu'on en sait, ce qu'on en attend, car 7 mois après les élections, 1 semaine après l'annonce de la répartition des postes, on n'en connaît pas la composition, juste donc cette clé de répartition. 65 membres, les 2 tiers pour le FCC de Joseph Kabila, 1 tiers pour le CASH de Félix Tshisekedi. Vous nous dites ce que vous en pensez, si l'attente est normale, le nombre de membres aussi, si vous êtes fataliste ou agacé de voir les choses traîner, les palabres s'éterniser. Vous êtes très nombreux, en tout cas, à réagir sur le sujet et nous vous en remercions. Premier auditeur en ligne ce matin, c'est Blaise qui est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Mazé, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Pour vous Blaise, la composition de ce gouvernement, ce n'est qu'un nouvel arrangement entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi.
Ce n'est pas une surprise. Je sais que pour le Congolais, la majorité de Congolais ne prennent pas cela comme une surprise. Nous nous attendions à cela et c'est là où on devait nécessairement atterrir. Donc moi je trouve que c'est normal, c'était comme ça, c'était prévisible.
Et vous, qu'est-ce que vous craignez principalement avec cette équipe, la répartition des principaux ministères notamment?
Alors, tout était joué d'avance. Vous savez, moi, je n'ai jamais porté M. Kabila dans mon cœur, tout simplement parce que pendant 18 ans, il n'a pas fait ce que j'attendais de lui. Et aujourd'hui, je dirais tout simplement que Kabila, c'est un fin stratège. Cet homme nous a montré une nouvelle attitude, c'est-à-dire on peut diriger sans pourtant avoir la présidence. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le 2 tiers de membres du gouvernement sont acquis à Kabila. Ce qui veut tout simplement dire que M. Félix Tshisekedi n'aura pas la mainmise. Et ça, je ne sais pas, je vous rappelle bien sûr. Vous prenez la présidente de l'Assemblée nationale, elle est acquise à Kabila et la majorité des députés nationaux et provinciaux. Vous prenez le Sénat, le président du Sénat, c'est acquis à Kabila avec la majorité des sénateurs. Le gouverneur de nos provinces, la quasi-majorité, acquise à Kabila. Et vous prenez le gouvernement avec 2 tiers. Mais Monsieur Mazé, dites-moi comment Monsieur Félix Tshisekedi pourra-t-il travailler librement? Donc rien ne pourra absolument changer et le peuple congolais doit cesser de rêver. Il n'y aura pas de changement, nous allons vivre la Kabylie comme nous l'avons vécu pendant 18 ans.
Merci Blaise, on reste à Kinshasa avec Junior, bonjour.
Ouais, bonjour François Mazé, en tout cas merci de me donner l'occasion de m'adresser par rapport à cela. En
tout cas, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, vous ne partagez pas ce que vient de dire Blaise. Hein.
Pas du tout, c'est l'ultra pessimisme de Blaise. Juste, simplement, moi j'aimerais dire une chose. C'est vrai, les attentes sont très grandes et le défi est très important. Mais la RDC, c'est quand même un pays très atypique. Ok, moi je pense quand même, je pense du reste que Félix Tshisekedi et l'UDPS, le CASH, s'en tirent plutôt bien. Quand vous voyez les proportions à l'Assemblée nationale, l'UDPS a moins de près de 10%. Mais sur le plan du portefeuille, il en gagne plusieurs après des âpres discussions et négociations.
10% de députés, mais 1 tiers des ministres, pour vous, vous appelez ça une bonne affaire?
Ministre, oui. Ben, je pense que c'est une très bonne affaire parce que, en tout cas, c'est pas donné d'avance. C'est après des âpres discussions. Et au-delà du fait, moi je disais tout à l'heure dans votre standard, c'est que le président de la République a plusieurs leviers de vitesse. Il est le commandant suprême des armées, il est le magistrat suprême, donc voilà, avec sa posture, le président de la République, il y a plusieurs choses qui peuvent contrebalancer. J'aurais bien voulu, là où je dis que je ne partage pas l'ultra-pessimisme de mon compatriote Blaise, c'est que ça aurait été quelqu'un d'autre, prénom Martin Fayulu. Par quel coup de baguette magique il aurait eu, il aurait eu la majorité pour pouvoir diriger et avoir les mains libres. Il y a autre chose aussi que je devrais rajouter. Vous voyez, toutes ces personnes qui, entre guillemets, sont acquises à la cause de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on voit que les lignes sont en train de se bouger. Il y a une grande frange qui est allée en dissension contre Kabila. Donc les choses sont en train d'évoluer, quoique timidement, mais ça évolue. Donc moi, je pense sincèrement que... comment je veux dire que
pour vous, cet accord, ça permet aussi de faire évoluer le FCC dans la direction du cash et dans le sens des réformes promises par le président Tshisekedi.
Absolument, absolument. On ne peut pas rêver mieux, en tout cas.
Merci, Junior, d'avoir été avec nous. Toujours à Kinshasa, Emery est avec nous. Soyez le bienvenu.
Bonjour, François.
Vous êtes plutôt d'accord avec Junior, vous estimez que le cash a obtenu le maximum de postes possibles dans ce gouvernement ?
Oui, par rapport à la configuration politique, telle que nous le voyons au niveau justement, telle que Blaise l'a décrit, mais de manière très pessimiste, effectivement, par rapport à cette configuration, obtenir le nombre de postes qu'ils ont obtenus au gouvernement, c'est quelque chose qui a été bien joué par les négociateurs de cash. Mais je pense que ça tient plus aussi du fait du poids politique du président, dans le sens qu'il ne faut pas oublier que le président qui a été élu au suffrage universel, il représente l'aspiration du peuple. Et je ne pense pas que la Kabylie, qui a quand même été rejetée parce que son candidat a échoué, les gens du FCC, je pense, ont dû tenir compte de ce fait et ne pas aussi, comment dirais-je, trop s'accaparer de tous les leviers de commande et de pouvoir pour ne pas donner l'impression qu'on continue le même système. Et je pense que dans la composition du gouvernement, il sera vraiment, je l'espère, il sera très important que des animateurs des différents postes ministériels, on voit quand même des nouveaux visages. Parce que sinon, ça aussi, ça donnera une mauvaise impression par rapport à la rupture que demande le peuple par rapport au pouvoir passé.
Mais Emery, 65 ministres, est-ce que ce n'est pas beaucoup trop ?
Bon, de mon point de vue, ça c'est vraiment tout à fait... Bon, de toute façon, on donne mon point de vue ici. Donc, de mon point de vue, je trouve que 65 ministres, c'est trop. Maintenant, comme on dit, comme je dis toujours, attendons voir la composition du gouvernement et attendons voir ce gouvernement à l'autre et on verra vraiment son efficacité à ce moment-là. Mais c'est dans le cadre du combat contre la corruption et la diminution du train de vie de l'État, 65 membres, c'est quand même, je trouve que c'est quand même beaucoup. Alors, on verra maintenant comment ces personnes vont travailler parce que l'espoir suscité par l'élection de M. Félix Tshisekedi
est immense. Et maintenant, c'est au gouvernement d'essayer de le concrétiser. Bonjour, Caleb.
Bonjour, François. Comment allez-vous ?
Ça va, merci, Caleb. Vous nous écoutez de Kananga, au Kasaï. Vous avez peut-être lu dans la presse locale l'expression « gouvernement éléphantesque et budgétivore ». C'est une expression que vous reprendriez à votre compte ?
Effectivement, hein, c'est un gouvernement budgétivore, un gouvernement pléthorique. Donc, Emery le disait à l'instant, 65 000 membres pour ce gouvernement, c'est un peu trop, c'est trop d'ailleurs. Alors, ce que j'aimerais dire au sujet de ce gouvernement, c'est qu'il aura fallu plus de 6 mois pour que nous puissions avoir l'annonce, hein, donc l'annonce de la composition de ce gouvernement. 6 mois, simplement parce que un groupe de personnes s'est disputé le gâteau et chaque parti voulait avoir le grand morceau. Et du coup, je vois là une grosse erreur de la part du président Tshisekedi, à mon avis, parce qu'il n'aurait pas dû céder de poste régalien au camp de l'ex-président Kabila. Parce que, vous savez, il a placé la lutte contre la corruption comme l'une de ses priorités. Alors, je vois mal comment il peut réussir tout en cédant la justice au camp du président Kabila, dont il a dénoncé...
La justice, la défense, les mines, les finances notamment. Mais Caleb, est-ce que il aurait été possible de faire un gouvernement sans donner des postes d'importance au FCC qui contrôle les deux assemblées ?
Oui, le FCC contrôle certes les deux assemblées. Constitutionnellement, c'est vrai que la composition du gouvernement devrait être le reflet du Parlement, mais la Constitution ne dit pas, n'oblige pas le président de partager les postes régaliens avec un allié. Parce que Kabila, en son temps, ne voulait pas partager ses postes régaliens avec qui que ce soit. Et aujourd'hui, il tenait à avoir, à obtenir ce poste-là pour ses propres intérêts. Tshisekedi devait faire le choix entre les intérêts d'un groupe de personnes ou les intérêts d'un individu et l'intérêt de 80 millions de Congolais. Il aurait dû faire le choix. Parce que Tshisekedi s'est retiré, je vous le rappelle, François Mazet, de l'accord de Genève qui consacrait la candidature commune de Martin Fayoulou, simplement parce qu'il craignait, je cite, sa mort politique. Pourquoi ne se retirerait-il pas d'un accord qui menacerait ou qui menace l'intérêt des Congolais? Donc, il peut se retirer de cet accord, de cet arrangement dont on parle, qu'il estime bien que les intérêts du peuple congolais sont menacés.
Merci Caleb d'avoir été en ligne de Kananga au Kasaï. Alors on reste dans l'espace kasaïen un peu plus à l'est, à Mbujibay. Prince est en ligne. Prince, soyez le bienvenu. Vous êtes très optimiste quant à ce futur gouvernement.
Oui, merci beaucoup François. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Moi je suis tout à fait optimiste par rapport aux différents points de vue qui pourraient donner, qui que soit sur la composition du futur gouvernement, du fait que lorsque nous lisons les textes constitutionnels de notre pays, nous nous rendons compte que le chef de l'État est doté de beaucoup de pouvoirs, des pouvoirs exorbitants qui pourront lui permettre de mettre à mal tous ceux-là qui pourraient peut-être croire qu'en obtenant tel ou tel ministère, ils pouvaient se retrouver dans l'impunité ou dans les différents abus du pouvoir. Donc je suis tout à fait optimiste par rapport à ça.
Mais tout de même, 65 membres pour un gouvernement, il y en a par exemple 34 en France, 30 au Nigeria, 15 membres au cabinet du président des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas trop?
Bon, si nous regardons la configuration, d'abord si nous pensons à la forme républicaine de tous ces États que vous venez d'énumérer, vous allez vous rendre compte que les États-Unis, par exemple, c'est vraiment un État fédéral. Et dans cet état-là, vous savez bien que il y a des états fédérés qui ont leur propre existence et qui ont une autonomie très, très décentralisée, très poussée.
Oui, mais là, quand même, excusez-moi, Prince, mais en RDC, il y a quand même des gouvernements provinciaux. Donc 26 provinces, c'est 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs, 260 ministres provinciaux, etc. C'est quand même une administration pléthorique pour un budget public qui est quand même assez faible à l'échelle d'un pays de 80 millions d'habitants comme la RDC.
Oui, par rapport à ça, nous devons dire que notre pays est extrêmement riche. Le problème des budgets par rapport à l'ossature des 65 membres qui pourraient composer le gouvernement ne peut pas poser problème. Nous sommes extrêmement riches et nous avons toutes les potentialités possibles pour avoir un budget plus que celui de la première puissance africaine qui est le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Mais c'est un problème de volonté des dirigeants. Et moi, je suis optimiste.
Merci Prince. La ligne est en train de se dégrader. En tout cas, merci de nous avoir appelé de Mbujibay. On retrouve un autre optimiste, c'est Joël qui est à Lubumbashi. Bonjour Joël.
Bonjour.
Vous estimez que cet accord met le pays sur les bons rails?
Tout à fait. Il faut féliciter parce que en principe, le cash qui n'a que 10% des députés au sein de l'Assemblée nationale ne pouvaient pas aujourd'hui bénéficier de 30% des membres au sein du gouvernement. Donc il y a lieu de féliciter la délégation conduite par Jamar Kabound et les autres pour conclure cet accord. La RDC, c'est 450 tribus. C'est 450 langues. Ce n'est pas comme la France, ce n'est pas comme la Belgique, ce n'est pas comme les autres nations de l'Afrique. Alors, chez nous, c'est comme Nazem le dit, il faudrait la démocratie consensuelle. Donc, les provinces se sont représentées au sein du gouvernement à travers un de leurs membres. Ce qui fait que 65 personnes, au regard des besoins de la RDC, au regard des attentes de la population, c'est encore moindre. C'est là que nous croyons qu'avec la volonté, c'est comme venait de le dire mon prédécesseur, la République démocratique du Congo peut mobiliser au-delà de 50 milliards de dollars d'un budget par an si toutes les recettes sont canalisées de manière efficiente. Mais là où ça pose problème, c'est lorsqu'il y a des détournements. Et d'ailleurs, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, M. Luzo Lobandi, avait dit que 15 milliards de dollars vont dans les poches des individus. Donc c'est question de bien canaliser les recettes de l'État. Nous sommes en mesure d'avoir un budget le plus important en chiffres par rapport à toutes les nations.
Alors pour l'instant, le budget de l'État congolais en 2019, c'est 6 milliards de dollars pour 65 ministres plus les administrations. Il va pas rester grand-chose à la fin. C'est ce que disent les ONG finalement, hein, qu'une fois qu'on sera passé en frais de fonctionnement, il n'y aura plus de dépenses sociales.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est question de l'impunité qui a caractérisé les 18 dernières années qui fait que les gens n'ont pas confiance à notre population, dans nos dirigeants. Mais nous croyons avec la volonté d'aller contre l'impunité, avec la volonté de bien canaliser les recettes, les deniers publics, nous croyons que les choses peuvent beaucoup mieux s'améliorer.
Mais Joël, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'impunité quand la coalition sortante conserve 2/3 des postes ministériels, et notamment la justice, la défense, les mines et les finances, c'est-à-dire la main sur le portefeuille, grosso modo?
Non, chez nous, nous avons souffert d'un problème de leadership visionnaire. Même M. Matata l'a dit une fois, nous n'avons pas eu un leadership qui peut s'imposer. Mais à travers M. Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons un leadership qui pourra, avec le ministre de la Justice, vous rappellerez que M. Tambo Mwamba avait refusé de libérer les anciens condamnés du régime Kabila. Mais finalement, il a fini par libérer les Franck Diongo, les Denis Dongala et consorts, Moïse Katumbi est rentré. Aujourd'hui, il est ici à Lubumbashi. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a lieu d'espérer avec un leadership visionnaire, un leadership qui ne privilégie pas l'enrichissement illicite, l'enrichissement rapide de quelques individus. Il y aura lieu de corriger beaucoup d'autres choses.
Merci, Joël, d'avoir été en ligne de Lubumbashi pour partager votre point de vue. Nous sommes à Liège, en Belgique, avec Papi Tcho. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vous inquiétez de voir les mêmes têtes rester au gouvernement?
Oui, ce qui est...
Alors, Papi Tcho, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Voilà, on avait un petit problème de ligne téléphonique. Donc, j'étais en train de vous dire que ce que vous craignez, vous, eh bien, c'est de conserver le même personnel politique à travers les gouvernements.
Oui. Ce qui est plus important pour la population congolaise, c'est plutôt les personnes qui animeront ces ministères. Donc, celles et ceux qui occuperont les différents portefeuilles. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que si ce visage qui représente le symbole suprême de l'horreur et que l'effondrement de l'RDC sont reconduits, vraiment, ça va fragiliser le pouvoir de M. Tshisekedi. Et, secondo, ça va unifier le force oppositionnelle contre M. Kabila. Ça va cristalliser la...
Alors, Papi Tcho, je suis désolé, on a un petit problème également. On n'entend plus très bien ce que vous vouliez nous dire. Je suis désolé. En tout cas, le débat continue, hein, sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez venir participer si vous le souhaitez, nous envoyer des messages WhatsApp aussi. On retourne à Kinshasa où Willy nous attend. Bonjour.
Bonjour François, bonjour à cette radio mondiale au milieu. Alors... de Kinshasa.
Alors, vous, Willy, vous trouvez qu'il y a trop de politique, en tout cas, dans ce gouvernement, et que pour vraiment faire avancer le pays, il aurait fallu un gouvernement de technocrates, d'universitaires.
Effectivement, je ne voudrais pas la quantité, je voudrais la qualité. Mon pays a tant souffert, et je voudrais que les ministres puissent faire montre que vraiment, ils ont été formés par les universités du monde entier. Et je voudrais un gouvernement qui ne tient pas compte de ces deux pôles-là, c'est-à-dire FCC, cash. Je voudrais que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, puisse fédérer autour de lui, comme Mobutu l'a fait pendant 32 ans, autour de lui des universitaires qui peuvent alors faire avancer les choses. Donc voilà, loin des calculs politiciens, nous ne voulons plus avoir alors les mêmes figures, non, ça nous disons non, Monsieur François, voilà notre position, la position du peuple congolais, nous voulons que le